À voix nue, Christophe Onodibio.
Salman Rushdie, écrivain.
Épisode 2, du zénith à l'abîme des versets sataniques. Bonjour Salman Rushdie.
Hello.
Alors hier, nous avons évoqué avec vous votre enfance indienne. Vous avez évoqué votre départ pour l'Angleterre. Vous avez 13 ans, on est au tout début des années 60, en 1961. Vous en parlez souvent comme de votre première rééducation, c'est votre expression. Vous avez même parlé de traversée du miroir, à la suite de laquelle vous avez dû vous redécouvrir. Est-ce que vous pourriez, Salman Rushdie, nous parler de cette première rupture entre vos deux premières vies, la vie indienne, hein, de l'enfance, et puis finalement la vie de celui qui, adolescent, va devenir l'adulte qu'on connaît, l'homme d'Orient qui peu à peu va se matiner d'occidentalité. Mm. Comment s'est passé ce départ ? À 13 ans, c'est très jeune.
Well, I went to boarding school in England.
Je suis allé dans un pensionnat en Angleterre, je pense, parce que j'avais un peu l'esprit d'aventure. Je voulais y aller, même si j'étais très heureux en grandissant à Bombay. Et puis, j'avais lu beaucoup de livres anglais pour enfants. Enid Blyton, Arthur Ransom,
etc.
Et j'avais ce conte de fées de l'Angleterre dans ma tête. Et je suis arrivé en Angleterre et j'ai découvert que c'était pas comme je l'avais imaginé. Il faisait bien sûr beaucoup plus froid que je ne l'imaginais. Je suis arrivé pour la première fois en janvier 1961, donc c'était en plein hiver. Alors que je suis un garçon des tropiques. C'était très désagréable. J'ai ensuite découvert que, malheureusement, certains de mes camarades de classe avaient des préjugés à l'égard des étrangers. Et j'ai donc commencé à apprendre ce que signifiait le mot « racisme ». Je
ne
m'étais jamais considéré comme l'autre, mais on me l'a fait sentir. À plus d'une occasion, je suis rentré dans ce qu'on appelait ces petites pièces, vous savez, ces études. C'était comme un placard à chaussures. J'entrais et quelqu'un avait déchiré mon travail. J'avais écrit une dissertation, elle a été déchirée. Parfois, il y avait des slogans écrits sur le mur, des slogans du genre « Rentre chez toi »,« Retourne d'où tu viens ».
C'était très choquant.
C'était très choquant.
Ça
a changé quand je suis passé à l'université à Cambridge. C'était pas comme ça.
Et là, vous étudiez quelle discipline ?
J'ai eu une bourse pour étudier l'histoire à Cambridge. J'ai pris Histoire de l'Inde de 1857, c'est-à-dire ce que les Britanniques ont appelé la mutinerie et ce que les Indiens appellent la rébellion. Et de 1857 à l'indépendance, en 1947, une période de 90 ans. C'est le premier sujet. Deuxième sujet, Histoire de l'Amérique depuis 1776, la déclaration d'indépendance, jusqu'en 1877, la fin de la période connue sous le nom de Reconstruction après la guerre de sécession. Et le troisième sujet, c'était Mahomet, la montée de l'islam et les débuts du califat.
Et c'est d'ailleurs là que vous découvrez l'histoire de ce qu'on appelle les Satanic Verses, de ces deux versets.
Il y a juste cette histoire que l'on retrouve dans un grand nombre de traditions savantes, ce qu'on appelle les hadiths de l'islam. Dans de nombreuses autres traditions religieuses, il y a un récit de tentation du prophète et de victoire sur la tentation. La version islamique de cette histoire est que les premiers adeptes étaient persécutés à la Mecque. Le centre du pouvoir de la ville se trouvait dans ces familles qui géraient ces trois temples aux portes de la ville dédiés à trois déesses, des déesses ailées.
Lat, Manat,
Uzza. C'est une grande ville commerçante, les caravanes vont, viennent, et il faut faire une offrande au temple à l'entrée et à la sortie. Et sinon, entre autres temps, il fallait payer des impôts, quoi. Les familles qui contrôlent ces temples sont les plus riches, les plus puissantes. L'histoire raconte qu'on a suggéré au prophète d'accepter ces trois déesses, non pas au même niveau que Allah, mais au niveau des anges. Vous avez déjà des créatures ailées, vous avez des anges. Tout ce que vous avez à faire est de vous mettre d'accord sur trois de plus. Alors la persécution cessera. Et alors l'histoire raconte qu'il a apporté ces versets qui acceptaient ces trois déesses. Et nous ne savons pas ce qui s'est passé exactement, mais il y a eu une controverse. Et il les a rejetés. Il a dit, le diable lui était apparu déguisé en archange, et qu'il avait apporté des versets qui n'étaient pas de Dieu, mais du diable, les versets sataniques. Il a remplacé ces versets par des versets qui répudiaient les trois déesses ailées. Voilà l'épisode. Ça correspond à des choses qui se produisent dans d'autres traditions religieuses. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et je me suis dit, ah oui, c'est une bonne histoire. Et c'était en 1968. Et le livre est sorti 20 ans plus tard.
Là, vous n'avez pas envie d'écrire ?
Non. Non, j'ai rien écrit. Quand j'étais à Cambridge, je jouais plus au théâtre que je n'écrivais. J'étais assez actif dans le théâtre étudiant. Différents types de théâtre. Des pièces de Bertolt Brecht, de Jean Ionesco, dans des pièces classiques. Ben Jonson. Shakespeare, je n'ai jamais fait Shakespeare, non, mais Ben Jonson. Et après que j'ai quitté l'université, j'ai essayé de travailler comme acteur. Et j'ai appris que je n'étais pas bon là-dedans.
À King's College, vous faites une rencontre qui est déterminante, c'est la rencontre de E.M. Forster.
Oui, oui, j'avais 19 ans, il en avait 91. Et il vivait à l'université. Je l'ai rencontré par hasard. Lors de mes premiers jours à l'université, je ne savais pas très bien où j'allais. Je suis rentré dans sa chambre par hasard, pensant que j'allais voir un autre professeur. Et j'ai vu sa chambre pleine d'objets indiens. Et puis il a sorti la tête de derrière la porte et il a dit « Qui êtes-vous ? » Et on a commencé à parler. De toute évidence, l'Inde était très importante pour lui. Bien sûr, en raison de son roman « Route des Indes », mais aussi parce que dans sa vie, il a été amoureux de deux hommes indiens différents. L'un d'eux était hétérosexuel. Mais c'est à lui que son roman « Route des Indes » est dédié. L'autre, il l'a rencontré en Inde et a vécu une histoire d'amour avec lui. Puisqu'il a vu que j'étais d'origine indienne, il est devenu amical. Et lorsque je lui ai avoué, très très timidement, que je pensais vouloir un jour écrire, il s'est montré très très gentil et m'a encouragé. Oui, c'était un miracle que je l'ai rencontré de cette manière.
Vous publiez un premier roman qui s'intitule Grimus, qui est l'histoire d'un jeune amérindien qui reçoit le don de l'immortalité. Alors c'est déjà, c'est le Samudramuttan, peut-être le souvenir de cette légende dont nous parlions dans le premier épisode, qui erre sur la Terre pendant 777 ans, 7 mois et 7 jours à la recherche de sa sœur. C'est un roman que vous trouvez pas très bon.
Non. Des gens qui l'aiment, mais l'auteur n'en est pas sûr. Mais d'où ça vient ? Il y a un très beau texte persan de l'écrivain Farid ad-Din Attar qui s'appelle Mantiq at-Tayr, qui se traduit par la conférence des oiseaux. L'idée est que ces oiseaux veulent aller rendre visite au dieu des oiseaux, le Simurgh. Simurgh est un anagramme de Grimus. Ils rencontrent une huppe qui leur dit qu'il les conduira à l'endroit où se trouve le dieu sur la montagne de Qaf. En arabe, Qaf est une lettre presque circulaire. La montagne de Qaf est une montagne circulaire qui fait le tour du monde. Et il y a un groupe de 30 oiseaux qui doivent traverser des vallées et de surmonter des obstacles physiques et philosophiques. Lorsqu'ils arrivent au sommet de la montagne, il n'y a personne. Et ils ne sont pas satisfaits du tout de l'oiseau huppe. Il est ridicule de constater que tout le texte est basé sur un jeu de mots. Il leur dit que le mot Simurgh, si on le divise en deux syllabes, si signifie 30 et murgh signifie oiseau. Et donc, arrivés au sommet de la montagne, ils sont devenus le dieu qu'ils cherchaient.
Ce roman, vous ne le trouvez pas très bon, mais est-ce qu'on peut dire qu'il contient déjà les éléments de la poétique de Salman Rushdie, au fond?
Oui, je pense que c'est là. J'ai juste l'impression que je ne maîtrisais pas complètement le type de travail que je voulais faire. Et le résultat n'est pas très bon. Mais il a fallu beaucoup de temps pour m'en remettre.
Ah oui. Et on le sait peu, mais vous avez travaillé dans la publicité chez Ogilvy & Mather, grande agence de publicité. Vous étiez bon dans ce métier?
I wasn't bad.
Je n'étais pas mauvais.
Vous vous souvenez d'un slogan ou...
No, I had some famous.
Oui, oui, j'ai eu quelques slogans célèbres. Il y avait une barre chocolatée appelée Aero, qui contenait des bulles. Et j'ai trouvé un slogan qui utilisait des mots en forme de bulles.
Irresistible.
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 Adorable.
Adorabubule.
Etc. That went on. That ran for years.
Et ça fonctionnait pendant des années.
Alors après, ce que vous vivez comme un échec, hein, Grimus, vous retournez en Inde à ce moment-là. Pour quelle raison?
Je me suis dit à un moment que je ne savais pas qui j'étais. Et on ne peut pas écrire un bon livre si on ne sait pas qui on est.
Retenez bien cette leçon.
Et je me suis dit il fallait que je revienne en arrière, comme le raciste l'avait recommandé. Retourner d'où je viens. J'ai reçu une petite avance pour ce premier roman. Je voyageais en Inde aussi peu cher que possible pour faire durer l'argent aussi longtemps que possible. J'y suis resté 4 ou 5 mois. Bon, je suis revenu et j'ai commencé à écrire. Et j'étais terrifié. C'est un livre très ambitieux. Et je n'étais pas absolument certain de ma capacité à l'écrire. Une des raisons pour lesquelles ça a pris tellement de temps à écrire, 5 ans, c'est parce que j'apprenais moi-même à l'écrire.
Vous lisez quels écrivains à l'époque pour vous guider?
Je lisais les gens évidents. Je lisais Calvino, Kundera, García Márquez, Günter Grass, Heinrich Böll.
García
Márquez et Günter Grass, tous les deux étaient capables de faire ce que j'essayais de faire, c'est-à-dire de combiner le merveilleux, le fabuleux et l'histoire, l'historique. Mais l'Allemagne et la Colombie, ce n'est pas l'Inde. Je ne pouvais simplement pas les suivre. Je devais trouver ma façon de faire quelque chose comme eux.
Alors on rappelle quand même, hein, pour nos auditrices et nos auditeurs, donc c'est Les Enfants de Minuit qui va faire de vous une star littéraire, hein, avec l'obtention du Booker Prize en 1981. C'est un livre absolument fou, époustouflant, plein d'idées, qui brasse 30 ans d'histoire indienne, où on parle d'Indira Gandhi, de la guerre du Bangladesh, du panthéon hindouiste. Et il y a un héros qui, comme tous les enfants nés à minuit le jour de l'indépendance de l'Inde, a des super-pouvoirs. Donc chez lui, il se loge ce super-pouvoir dans ses sinus, hein, dans son nez. Et il y a toujours donc ce mélange de réalité et de fiction. Il y a une trouvaille absolument géniale avec l'histoire du drap d'un des personnages qui doit rencontrer sa promise, mais comme il est médecin et que c'est très prude, il a le droit à chaque fois de soigner la partie de son corps par un endroit, un trou dans le drap, donc il la voit par petits morceaux, et mentalement il se recompose le corps de l'aimer. C'est une idée absolument géniale.
And you see, true story.
Et vous voyez, c'est une histoire vraie.
My grandfather was a doctor.
Mon grand-père était médecin.
And he told me a story.
Il m'a raconté l'histoire qu'il avait dû rendre visite à une patiente qui avait normalement un médecin femme. Mais la femme médecin était souffrante, alors il a été appelé à la dernière minute. Et comme il s'agissait d'un homme qui examinait une femme, et que celle-ci était soumise au purda, il a dû regarder la partie infectée de la patiente à travers un trou dans le drap. Il m'a raconté cette histoire pour rire, il m'a dit « Regarde cette chose ridicule que j'ai dû faire !» Et je l'ai mise dans le livre.
Vous allez vous retrouver très vite avec une communauté d'écrivains très swinging London. Hein. Alors on les connaît, on les adore. Martin Amis, qui malheureusement nous a quittés l'année dernière. Le regretté auteur de Monet et de La Zone d'intérêt, qui était magnifiquement adapté au cinéma. Ian McEwan aussi est là. À quoi ressemble la vie avec eux dans ce Londres ultra littéraire, cette vie de parrain, de Godfathers, comme vous dites souvent.
You know,
vous savez, dans la littérature anglaise, c'est devenu un moment riche parce que certains écrivains venaient de sources anglaises non traditionnelles. Il y a eu Ishiguro, Timothy Moe, Carol Phillips des Antilles, etc. Soudain, il n'y avait plus simplement des Blancs. Ensuite, bien sûr, il y a eu Martin Amis, Ian McEwan, Julian Barnes. À l'époque, les gens parlaient de nous comme de cette génération. Et nous y avons tous résisté. On a dit, non, on n'est pas du tout comme ça. Certains d'entre nous ne s'aiment même pas, d'autres ne se connaissent pas, d'autres encore s'apprécient, mais nous n'avons pas l'impression d'appartenir à un gang. Alors qu'avec les surréalistes français, on sentait que c'était une bande, ils se rendaient tous les jours dans les ateliers les uns des autres. Oui, mais nous étions très fiers de faire partie de cette histoire, très riche de la littérature anglaise. Ian McEwan, Martin Amis et moi-même étions de très bons amis.
En 1989, vous publiez donc les versets sataniques. Donc c'est pas encore la fatwa, mais déjà la publication. Est-ce que Salman Rushdie, en l'écrivant, hein, on a raconté dans les épisodes précédents comment vous aviez découvert pendant vos études hein, cette histoire des versets dits sataniques. Est-ce que vous pouviez deviner que c'était tellement audacieux que ça pouvait provoquer ça.
Non, je ne pensais pas. Ce que je pensais, c'est que j'avais écrit deux livres, Les enfants de minuit et la honte, qui parlaient du monde d'où je venais. Les enfants de minuit, principalement sur l'Inde. La honte, principalement sur le Pakistan, bien qu'une partie se trouve aussi en Inde.
And I thought I must write a book about where I came to. So I thought of the satanic verses as being my.
Je me suis dit qu'il fallait que j'écrive un livre sur mon pays d'origine. Et j'ai donc pensé que les versets sataniques seraient mon roman anglais. C'est un roman sur Londres.
South Asian immigrants.
C'est un roman sur les immigrants d'Asie du Sud comme moi.
In England, particularly in London.
Qui se font une existence en Angleterre, en particulier à Londres.
There's one character who is losing his mind.
Et au milieu de tout cela, il y a un personnage qui perd la tête. Il a également perdu sa religion. Et il commence à faire des rêves étranges. Ses rêves parlent de la naissance d'une religion. Cette religion ne s'appelle pas l'islam. Le prophète ne s'appelle pas Mohammed. La ville ne s'appelle pas la Mecque. Ce sont des rêves qui se déroulent dans l'esprit de quelqu'un qui perd la tête. Je me suis dit que c'était ce qu'on appelle de la fiction. Il s'agit d'utiliser des choses que je connais bien, parce que, bien sûr, la religion que je connais le mieux, c'est l'islam, mais de les transformer en quelque chose d'autre, d'en faire un récit, une histoire. Je suppose que j'ai pensé que si vous étiez un musulman très conservateur, vous n'aimeriez pas ça. Mais ces personnes n'ont jamais aimé ce que j'ai écrit, de toute façon.
Je rappelle quand même hein, l'histoire hein, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore lu Les Versets sataniques, qui est un vraiment excellent roman, et je dis bien roman. C'est un avion qui explose au-dessus de la Manche, et au milieu des membres humains qui s'éparpillent et des objets qui viennent de l'avion, il y a deux silhouettes qui tombent du ciel mais qui ne s'écrasent pas. Deux stars du cinéma indien, l'acteur Jibril Farishta et Saladin Shamsha, qui est un génie du doublage. Ils sont agrippés l'un à l'autre et ils vont atterrir sains et saufs sur une plage anglaise enneigée parce qu'ils ont été choisis pour être les protagonistes de la lutte éternelle entre le bien et le mal. Il y a énormément d'histoires, mais on peut dire que c'est ça la matrice. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous apprenez le 14 février 1989, jour de la Saint-Valentin, hein, il faut le préciser, cette fatwa qui vous condamne à mort.
Yeah. I mean, there had been trouble before that date, but,
oui, il y avait eu des problèmes avant cette date.
But I was arguing about the novel and
mais je discutais du roman et je disais aux gens ce que je pensais du roman et ainsi de suite. Et je ne me sentais pas en danger.
And then on that day,
et ce jour-là, j'ai reçu un appel téléphonique d'une journaliste de la BBC qui m'a dit
«
Qu'est-ce que ça fait de savoir que vous venez d'être condamné à mort par l'ayatollah Khomeini ?» J'ai pensé « Bah, ça ne fait pas plaisir. » Et c'est ainsi que je l'ai appris.
And then I, yeah,
et puis, oui, c'est devenu une journée très étrange.
Also,
mais ce qui s'est passé aussi ce jour-là, c'était le service religieux commémoratif pour mon ami Bruce Chatwin, qui était décédé, et qui se déroulait pour une raison quelconque dans une église orthodoxe russe à Londres. Personne ne savait comment se comporter. Je ne savais certainement pas comment me comporter moi-même. Je me suis dit, je vais y aller, j'y suis allé. Et lorsque je suis sorti, la rue était pleine de journalistes et de photographes. J'ai dû être enlevé par un ami qui avait une voiture sur place. J'ai ensuite rencontré la police qui m'a offert sa protection. Puis toute cette période a commencé. C'était fantastiquement choquant. J'ai vraiment pensé qu'il ne me restait probablement plus beaucoup de temps à vivre. Et puis, il s'est avéré que si.
Et votre ami Paul Theroux, écrivain aussi, vous fait une blague, c'est ça ?
Made a bad joke. In the middle of this memorial event,
au milieu de l'événement commémoratif pour Bruce Chatwin, il m'a dit, je suppose qu'on sera ici la semaine prochaine pour toi, Salman.
Je lis quand même ce texte de la fatwa. Au nom de Dieu Tout-Puissant, je veux informer tous les musulmans que l'auteur du livre intitulé « Les versets sataniques » qui a été écrit, imprimé et publié en opposition à l'islam, au prophète et au Coran, ainsi que ceux qui l'ont publié et connaissent son contenu, ont été condamnés à mort. J'appelle tous les musulmans zélés à les exécuter rapidement, où qu'ils se trouvent. Il y a un mot qui va revenir, un mot auquel vous vous opposez, c'est le mot de blasphème.
Mm. You know,
vous savez,
there is no such thing.
Ça n'existe pas. L'une des choses, une des grandes leçons des Lumières françaises est que l'ennemi, c'est l'Église, pas l'État. L'Église catholique, avec son appareil d'oppression, l'anathème, l'excommunication, tout cela, c'est ce que les écrivains du XVIIIe siècle en France ont identifié comme étant la chose qu'il fallait surmonter pour avoir la liberté. Ces écrivains, Voltaire, Montesquieu, sont tous des écrivains très importants pour moi. Je me souviens que quelqu'un m'a envoyé un t-shirt sur lequel il était écrit « Le blasphème est un crime sans victime ». Il n'y a pas de victime parce qu'il n'y a pas de Dieu. Bien sûr, dans la plupart des pays occidentaux, la loi sur le blasphème a été abolie il y a très longtemps. Et ce qui s'est passé à la suite de l'attentat contre les versets sataniques, des personnes ont demandé qu'elle soit rétablie afin que je puisse être poursuivi et envoyé en prison.
Ce que vous appelez la God Team, en fait, parce que on rappelle quand même, ça vous le racontez dans Joseph Anton, vos mémoires, il y a à la fois une sorte d'arc qui rassemble l'archevêque de Canterbury, le cardinal de New York, le grand rabbin d'Angleterre et le pape, qui disent, bah oui, non, en fait, Salman Rushdie a tort.
They were all on the other side.
Oui, ils étaient tous de l'autre côté.
Divine. And I began to understand
et j'ai commencé à comprendre que je savais très bien que ce n'était pas mon équipe.
Ouais. Est-ce que vous avez été surpris, parce qu'il y a plein de gens qui vous ont soutenu, mais est-ce que vous avez été surpris de voir que même des écrivains, c'est-à-dire des gens qui utilisent la fiction, Roald Dahl, John le Carré, des écrivains ne vous aient pas soutenu et ont dit que vous étiez allé trop loin?
C'était très perturbant. Mais n'oublions pas que de nombreux écrivains m'ont soutenu, bien sûr, y compris des écrivains musulmans. Il y a eu un livre qui a été publié en France qui s'appelait « Pour Rushdie » avec Naguib Mahfouz et une centaine d'autres écrivains et intellectuels. Je dirais que la grande majorité des écrivains occidentaux, européens et américains m'ont soutenu. Mais il y a eu des exceptions surprenantes.
Mais la chose qui vous a marqué, est-ce que ce n'est pas le fait qu'on refuse à ce texte le statut de roman, de fiction, qu'on le réduise finalement à une insulte,
Oui, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une certaine manière d'une erreur de catégorie. Une œuvre de fiction traitée comme de la non-fiction. Une œuvre d'imagination traitée comme une polémique. C'est un moment où le seul langage qui ne semblait pas disponible pour discuter de ce livre, les versets sataniques, était celui de la littérature. On pouvait utiliser les termes de la religion, sociologie, de la politique. Et moi, je disais aux gens, à mes amis, les gens qui me défendaient, ne me défendez pas moi, défendez le livre, défendez le texte.
Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'on ressent quand on se souvient du petit Salman Rushdie qui se nourrissait avec joie des livres, le livre est un objet de joie, de voir que vos livres sont brûlés, que des attentats à la bombe sont organisés, que votre éditeur norvégien se fait tirer dessus, votre traducteur japonais est mort, est mort. Votre traducteur italien a survécu, mais il a été attaqué au couteau lui aussi. Qu'est-ce qu'on ressent?
C'est horrible. Horrible. Vous vous sentez coupable. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous que ces gens ont été attaqués. D'une certaine manière, ce sont des mandataires. On ne les attaquerait pas s'ils pouvaient m'atteindre moi. C'était horrible. Et pourtant, je me suis dit qu'il fallait mener ce combat. Je me souviens avoir pensé que, d'une certaine manière, je n'avais pas choisi le combat, mais que c'était un combat où il y avait tout ce que j'apprécie d'un côté et tout ce que je déteste de l'autre. Et c'était donc le bon combat. Ce que je me suis dit, en fait, c'était que je devais trouver un moyen de poursuivre, de continuer. Il y a eu un moment, après que tout ait commencé, où je ne savais pas si j'écrirais encore un jour.
Par rapport à ce conte de Scheherazade, dans Les Mille et Une Nuits, qui vous avait tant nourri quand vous étiez enfant, est-ce qu'il n'y avait pas une ironie? Scheherazade, elle raconte des histoires pour éloigner la mort. Vous, c'est comme une anti-Scheherazade qui attire la mort sur lui ou sur les autres, à cause de ces histoires.
Oui, je sais, mais Scheherazade et moi, nous sommes apparentés. Elle est le grand ancêtre. C'est la grande ancêtre. Une grande héroïne de la littérature qui a utilisé la littérature, les histoires, pour civiliser un barbare et qui a réussi.
Merci Salman Rushdie. Nous nous retrouvons demain pour évoquer votre troisième vie, celle de l'écrivain traqué, obligé de vivre une vie clandestine. C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Sébastien Royer, traduction Michel Zlotowski, réalisation Angélique Thibault, une série de Christophe Onodibio avec le concours du magazine Le Point, à réécouter et podcaster sur franceculture.fr et l'application Radio France.